Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
C'est l'heure des esprits libres. Ils sont déjà en train de discuter tous les deux. Lucie Robquin, rédactrice en chef aux Échos, et Christophe Barbier, que je ne présente plus.
Bonjour David.
Bonjour David.
Il y a toujours du théâtre, Christophe?
Toujours du théâtre. Mozart, mon amour, tous les lundis à 21h. Et bientôt le tour du théâtre.
À quel endroit? Au théâtre de poche à Montparnasse.
Au théâtre de poche, avec le tour du théâtre en 80 minutes qui va rejoindre l'affiche bientôt.
Eh bien, comme ça, c'est dit. On commence avec un sujet plus sérieux que ce que vous jouez au théâtre, même si Mozart c'est sérieux. C'est ce rapport sur l'influence des frères musulmans demandé par le gouvernement via le ministère de l'Intérieur à deux hauts fonctionnaires. Il devrait être rendu public et rendu au gouvernement à l'automne. Pourquoi les frères musulmans et pourquoi maintenant, Lucie ?
C'est un peu facile de découvrir le problème des frères musulmans, oui, en pleine campagne électorale. Le RN est à 30%. Renaissance ne sait plus quoi faire pour reprendre la main. Il y a aussi une dimension personnelle pour Gérald Darmanin, qui a vécu l'échec de la réforme de l'immigration avec douleur et qui, jusque-là, s'est montré plutôt discret, plutôt bon élève. Donc voilà, il y a une volonté de reprendre la main face aux autres ministres. Ce rapport sur les frères musulmans, il a un objectif, hein, c'est de convaincre la France, les institutions, les élus locaux qu'il faut prendre le problème à bras-le-corps. On doute évidemment du volontarisme du gouvernement. On sait qu'il n'y a que 60 étrangers islamistes qui ont été expulsés de France depuis janvier. C'est très peu. Il y en a beaucoup plus qui circulent sur le sol français. C'est le fichier des renseignements du terrorisme qui nous dit cela. Donc on attend l'action après ce fameux rapport.
Christophe, Lucie l'a souligné, tiens, au moment où des européennes, au moment où Renaissance court après le Rassemblement National, ça questionne quand même, parce que le problème des frères musulmans, de l'entrisme, de cette stratégie charia compatible, comme on l'entend maintenant beaucoup, c'est pas nouveau.
Non, ce n'est pas nouveau. Alors bien sûr, il y a de l'opportunisme politique et électoral de la part de Gérald Darmanin, cette campagne des européennes, mais c'est un problème européen aussi. On a vu des associations européennes, la FEMISO par exemple, profiter des largesses financières de la Commission pour mener de la propagande islamiste. Quand on a eu une campagne financée par l'Europe, le hijab c'est la liberté, des affiches officielles que la France a fait arrêter de justesse et même le mal était fait, on se dit qu'il y a quand même un véritable problème. Deux raisons pour lesquelles il n'est jamais trop tard pour agir. Vous avez vu le polémique sur le voile porté par les joueuses de foot, les hijabeuses. La Fédération française a été ferme, pas de voile quand on joue au foot. Et on a vu surgir, à la place, des casques. Des casques pour les joueuses et les joueurs. Et puis des collants pour couvrir, même quand il fait beau, les jambes, les genoux. Alors il y a toujours une raison, le genou est fragile, le genou est pas beau.
Ça va devenir une tenue de football américain.
Ben voilà, et en fait c'est ça le côté capillarité de l'islamisme que mènent les frères musulmans. Pas de bâtiments, pas de manifestations, pas de banderoles, rien de spectaculaire, mais partout, essayer de mettre un peu d'islamisme. Il y a un autre chiffre, moi, qui m'a frappé. L'American Jewish Committee a publié une étude sur l'antisémitisme ce week-end, et on demande aux gens, à votre avis, qui sont les principales victimes. Et bien pour les Français musulmans, les principales victimes d'actes violents en France, ce sont les musulmans. Pour 61% des musulmans, ce sont les musulmans qui sont d'abord victimes, pas les juifs, pas les autres. Eh bien ça, c'est la stratégie des frères musulmans, c'est la victimisation.
Ils se sentent victimes de la laïcité à la française.
Oui, c'est-à-dire convaincre chaque musulman qu'il est victime. Victime de la France, de la République, de la laïcité. Si on arrive à faire d'un Français musulman une victime qui se sent victime parce qu'il est musulman, on en fait un frérisme.
On voit d'ailleurs à quel point l'islamophobie, ce concept, a pris de l'ampleur ces derniers mois. C'est impressionnant. C'est
inventé par les
frères musulmans.
Lucie Robquin, est-ce que cette stratégie nappée sur la fameuse génération offensée, celle des réseaux sociaux, celle qui porte son narcissisme en bandoulière et son identité, si on lui dit t'es victime, elle va mordre à l'hameçon tout de suite?
Ça fonctionne à merveille, évidemment. Et alors, vous parliez du port du voile tout à l'heure, les chiffres sont absolument effrayants. plus 50% de port de voile en 10 ans en France. C'est ça les frères musulmans, ce n'est pas les actions terroristes dont on parle régulièrement en France, c'est cette influence sous-jacente qu'on voit dans de nombreux quartiers de France et pas uniquement dans les banlieues. Voilà, c'est à ça que...
Et en 6 ans, 4 lieux de culte seulement fermés pour proximité avec l'islam radical.
Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis on va revenir dans le temps, enfin retourner dans le temps, remonter le temps. Au début des années 80, se crée SOS Racisme. Alors on a dit créature de Mitterrand, etc. Mais enfin, il y avait une France qui avait des a priori sur les Nord-Africains, les Maghrébins. C'était comme ça, même s'ils étaient français, même s'ils étaient là depuis longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette période-là et aujourd'hui? La France est plus ou moins raciste? Elle n'est plus raciste? Est-ce que cette notion de racisme systémique, alimentée par la ghettoisation, par peut-être les discriminations au travail? Il y a un livre qui vient de sortir qui explique que des jeunes d'origine maghrébine, de tradition musulmane, se disent « je fais des belles études en France, ben, je vais en profiter ailleurs, à Dubaï ou dans mon pays d'origine, mais le pays d'origine de mes parents ou de mes grands-parents. Tout ça ne veut rien dire pour vous, ou ça a quand même une signification ?»
C'est un véritable trouble, évidemment, de l'identité, du rattachement à la France, qui est un rattachement à des valeurs républicaines. C'est ça qui est important. C'est pas le terroir, c'est pas les traditions, c'est les valeurs républicaines. Il s'est passé deux mouvements idéologiques funestes. Le premier, vous le décriviez, c'est d'essayer de nous faire croire qu'il y a un racisme systémique en France. C'est-à-dire que la machine de l'État, que la machine des élites est tournée pour opprimer les minorités visibles, comme on les appelle. C'est évidemment faux, même s'il y a des racistes en France et du racisme en France. Puis le deuxième mouvement idéologique, qui semblait plus positif, mais qui a été une profonde erreur de la gauche, c'est de prôner le droit à la différence. De dire, vous allez être considéré dans votre différence et nous allons flatter votre différence. Alors que la force de la République, c'est le droit à l'indifférence. Tu as la religion que tu veux, les origines que tu veux, la culture que tu veux, tu fais partie de la communauté française. Tu as le droit à l'indifférence de notre part, on ne va pas te cataloguer en fonction de tes orientations.
Lucie, il y a une fuite des cerveaux d'origine immigrée, des jeunes français d'origine immigrée, Bac+5.
Bien sûr, mais les États-Unis sont autrement plus attractifs que la France, même le Royaume-Uni.
Ah, ils vont pas en Iran.
Voilà, c'est ça. On a des cas très concrets de polytechniciens noirs ou arabes qui cherchent un travail ailleurs. Ne serait-ce que ce banquier, la Thiam, qui avait cherché désespérément un emploi en France et qui s'est retrouvé PDG des plus grandes banques européennes ailleurs parce qu'on ne lui avait pas proposé d'emploi en France.
Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il y a un racisme systémique en France?
Non, les discriminations au travail sont un vrai sujet en France. C'est certain. On voit d'ailleurs que la diversité au sommet des grandes entreprises françaises est bien inférieure à celui des pays anglo-saxons. Il n'y a pas pour autant de racisme systémique en France.
On parle de la Chine. Convaincre la Chine d'arrêter les subventions cachées, le dumping, d'arrêter de vendre à la Russie des pièces détachées, des composants électroniques qui vont servir à désarmement. Est-ce qu'on peut établir comme ça, le temps d'une visite officielle, un commerce équitable avec la Chine?
Non, je pense que c'est un déplacement qui n'a pas servi à grand-chose et qui est même contre-productif à certains égards. Il y a une certaine forme d'humiliation à voir Xi Jinping se rendre d'abord en France et ensuite en Serbie et en Hongrie, qui sont les deux têtes de pont des intérêts chinois.
Oui, mais s'il était d'abord allé en Hongrie et en Serbie, on aurait dit humiliation aussi.
Oui, mais il aurait pu aller qu'en France, c'est souvent ce qui se fait. Non, mais c'est souvent ce qui se fait lorsqu'un grand chef d'État se rend en Europe. Par ces déplacements, Xi Jinping veut montrer qu'en fait, il peut faire des affaires de manière bilatérale avec tel ou tel pays européen en s'affranchissant des pressions bruxelloises. Pour la France, c'est assez catastrophique. Alors, on peut évidemment se réjouir de la suspension des taxes sur le cognac, mais on ne fait que lever un affront magistral qui a été fait à la France. Il n'y a aucune concession chinoise qui est faite à la France lors de ce déplacement. Et la France continue de se faire laminer par la Chine. Je ne donnerai qu'un chiffre pour donner l'ampleur du désastre. Le déficit commercial à l'égard de la Chine a été multiplié par 10 en 20 ans. C'est absolument effroyable.
Le Figaro donne le chiffre de 46 milliards. J'imagine que les échos, c'est la même chose.
C'est ça, 50 milliards. C'est la moitié du déficit français. Donc
je serais quand même un peu plus optimiste que Lucie.
C'est bien que vous ne soyez pas d'accord de temps en temps.
Parce que d'abord, la Chine traverse un moment de faiblesse économique depuis la Covid. Où est l'arrogance il y a quelques années quand les routes de la soie allaient nous balayer, nous digérer, nous dévorer? La Chine a des problèmes. Et elle vient en Europe aussi parce qu'elle a peut-être des choses à négocier. Si Xi Jinping passe par la Serbie, qui n'est pas dans l'Union européenne et qui a un peu la tête de pont aussi des intérêts russes, en tout cas de l'amitié russe. Et s'il passe par la Hongrie, qui est quand même un peu le mouton noir de l'Union européenne, c'est bien que la Chine est un peu en faiblesse. Et puis c'est un moment où l'Europe a l'occasion historique de se renforcer. Longtemps, on ne pouvait rien faire vis-à-vis de la Chine parce que les Allemands avaient trop besoin de la Chine pour exporter leurs machines-outils. On voit aujourd'hui que ce n'est plus le cas. Ce week-end, dans la tribune, le président de la République a insisté. L'Allemagne profiter d'un gaz russe pas cher, c'est fini, et de débouchés faciles vers la Chine, c'est fini. Et donc on a l'occasion de dire à l'Europe, bon voilà, on a plus problème allemand, nous pouvons tous faire corps pour être un peu plus protectionnistes vis-à-vis de la Chine. Il y a peut-être une opportunité politique, je regrette que Scholz n'ait pas été hier à Paris. La dernière fois, il y avait Merkel, présidence de la Commission, et Macron. Et là, Scholz a boudé.
Heureusement quand même, pour des raisons d'agenda.
Heureusement quand même que l'Europe a l'Allemagne, ce qui fait que les marchés financiers internationaux font confiance à la France et à sa capacité de remboursement. Heureusement qu'on a l'Allemagne et sa réputation financière, Lucie Robquin.
Oui, mais alors sur la Chine, elle ne nous aide absolument pas, c'est certain. La position de Scholz, il y a quelques semaines à Pékin, était très différente de celle d'Emmanuel Macron hier. Je reviens sur ce qu'a dit Christophe Barbier. Je crois que la faiblesse de la Chine, c'est de n'avoir pas su passer d'une société de production à une société de consommation. Et du coup, elle a aujourd'hui des surcapacités productives immenses qu'elle va déverser sur l'Europe. Je pense que nous n'en sommes qu'au début d'une vague d'exportation chinoise vers l'Europe, notamment des automobiles. Et que donc la balance commerciale française et européenne va encore fortement se dégrader.
Les jambes et la tête. On va finir notre discussion ainsi. Alors les jambes, c'est la flamme olympique qui arrive demain à Marseille via la navigation du Belém. Marseille qui se prépare à faire une très belle fête à cette flamme olympique. Vous vouliez en parler parce que vous avez hâte que les Français s'enflamment, si j'ose dire, pour leurs Jeux olympiques.
Oui, moi j'ai hâte. Je pense que ça va être une grande fête. Je pense que quand on sera dedans, on sera à la fois enthousiaste, fier et puis en appétit aussi de médailles. C'est pour ça que je suis d'autant plus désolé de voir pour l'instant certains corporatismes gâcher la fête et faire parler plus d'eux qu'on ne parle de la flamme. Je pense aux éboueurs de Marseille en grève, aux contrôleurs aériens en grève, aux cheminots en grève, etc. Tout ce chantage corporatiste qui semble penser que l'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire réussir les Jeux, la fierté de la France, ça n'est rien à côté de grappiller quelques avantages supplémentaires. Ça me désole un petit peu. Mais je pense que la flamme va éteindre, si j'ose dire, tout cela.
Lucie Robquin.
Oui, ce relais de la flamme, c'est un peu le moment le plus populaire des Jeux olympiques. 400 communes traversées. En fait, le parcours a été dessiné de telle manière que les Français se trouvent à moins d'une heure de la flamme de chez eux lors de ce grand parcours qui va traverser toute la France. La France reste néanmoins la France. Il y a toujours une polémique autour de ces événements. On voit donc certains Français qui s'émeuvent aujourd'hui du fait que le relais de la flamme a été inventé à l'époque nazie pour les Jeux olympiques de Berlin de 1936. Donc voilà, nous ne sommes jamais à l'abri d'une nouvelle polémique en France.
Bernard Pivot, votre meilleure séquence d'apostrophe, je vous ai demandé d'y réfléchir, un meilleur souvenir d'apostrophe ou de pivot à la télé ou de pivot en dictée ou même de pivot à la radio. Est-ce que vous avez des souvenirs En ce qui me concerne, c'est quand même cette musique tard le soir, vendredi, on va l'écouter dans un instant ou la réécouter. Mais pour vous, Christophe Barbier, qui êtes si littéraire.
Deux souvenirs. Un, par le haut, la noblesse, François Mitterrand, à la fin de son parcours à l'Élysée, interrogé par Bernard Pivot, qu'aimeriez-vous entendre Dieu vous dire quand vous entrerez au paradis, la question classique. Et Mitterrand avait répondu « Maintenant, tu sais ». Et ça disait beaucoup du parcours religieux de François Mitterrand, du parcours spirituel de François Mitterrand, qui avait dit un jour « J'ai fait le tour de la question ». Il ne croyait pas. Peut-être en rien, peut-être en Dieu. En tout cas, il croyait dans le fait de croire, etc.
Il se disait agnostique,
oui,
Mitterrand,
disait agnostique,
ce qui n'est pas athée.
Il nous a légué, lors de ses derniers vœux, les forces de l'esprit. Et puis, 28 juin 1982, France-Autriche, Coupe du Monde. Les Français gagnent 1-0, un but marqué sur coup franc par Bernard Gengini. Les joueurs autrichiens avaient mis les mains sur leur partie intime pour se protéger, évidemment, quand on reçoit un coup franc. Et Bernard Pivot avait eu ce mot génial. Il y a les valses de Vienne. Les Autrichiens ont pris un but quand ils avaient les mains sur les valseuses.
Ah, c'est joli, c'est joli. Lucie Robquin,
il y avait des beaux moments de
votre pivot.
Il y avait des beaux moments de transgression chez Bernard Pivot aussi. Je me souviens, moi, de cette émission avec Nabokov, où on voyait Bernard Pivot resservir du thé régulièrement à Nabokov. Et on a appris a posteriori que c'était du whisky. Voilà, c'est des moments formidables qu'on connaît peut-être moins aujourd'hui à la télévision.
Vous avez la nostalgie de la télé qui boit, qui fume et qui reçoit des auteurs transgressifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Et qui parle en liberté. Pour beaucoup, Bernard Pivot, c'est des mots, mais également donc des notes, celles du premier mouvement du concerto pour piano de Rachmaninov, qui servait de générique à l'émission culte. Dès que j'entends ces notes, j'ai l'impression qu'on est vendredi, dans les années 80. Lucie, Christophe, merci. À la semaine prochaine.
Bonne journée.